vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 155. Benoît Linder, des photos parfois amères. Clic-clac, bonjour, chers amis, bonjour. Oui, bon, clic-clac, c'était le bruit des appareils photo argentiques avec des films, c'était le bruit de l'obturateur et c'était aussi une publicité, clic-clac, Kodak. Mais c'était à l'époque où, dans la famille, on faisait une pellicule photo par an, format carré, avec le film 120. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de photo et d'histoire de la photo, mais je suis de la génération du format 24-36, avec les pellicules 36 poses. Et 36 photos en une année. Et aujourd'hui, on en fait des milliers. Mais est-ce qu'on les regarde encore? Parce que les 36 photos que vous avez dans la pochette ou les photos encore plus vieilles qui dorment dans une boîte à chaussures, de temps en temps, on les ressort et chaque photo raconte une histoire. C'est formidable. Aujourd'hui, voilà, on a un millier de photos dans l'ordinateur. De toute façon, un jour, il y a un bug, tout est effacé et on n'a plus aucune photo des 10 dernières années à part celle où on n'a pas le droit de sourire sur sa carte d'identité. Donc, séquence nostalgie avec le petit goût amer du souvenir des pochettes photos que l'on allait chercher au magasin. Et donc, aujourd'hui, dans notre émission, qui est aujourd'hui, chers auditeurs de Radio Judaïque Strasbourg, l'émission est en noir et blanc, 400 hasards, hein, avec un photographe qui se demande comment on peut parler de photos à la radio puisqu'on ne va rien y voir. Bonjour Benoît Linder.
Bonjour.
Alors vous êtes donc photographe, à la fois amateur et professionnel. Vous faites aujourd'hui de la couleur, mais cela ne va pas se voir à la radio. Et vous êtes un vrai personnage puisque vous faites des traductions de l'allemand pour Arte, vous êtes gardien de nuit à la poste des chèques postaux, vous encartez des publicités dans les journaux, et alors ça c'était dans votre vie d'avant, et donc vous faites des photos à la radio. Alors, décrivez-moi la plus belle des photos que vous ayez prises. Alors, qu'est-ce qu'on y voit?
La plus belle photo, c'est une photo réalisée à Venise sur les atterrés. C'est une photo réalisée au mois de mai 1996, où c'est une photo en contre-jour.
Alors les auditeurs vont fermer les yeux pour mieux la voir.
Voilà, donc,
une photo
c'est
à
bien.
Contre-jour.
Photo à contre-jour, on voit la proue d'une gondole, genre le début. Il y a un mât devant et il y a deux personnes qui sont situé entre cette gondole et ce mât, deux messieurs qui se parlent et ils avancent en même temps et le plus grand se tourne vers le plus petit.
Voilà, alors je précise qu'au studio, là, vous n'avez pas la photo devant les yeux, hein, donc vous la racontez de mémoire. Est-ce que, alors Venise, hein, c'est un peu la tarte à la crème, hein, ou la tarte au fromage.
Mais justement, c'est pas une photo. Alors,
en fait, on a envie de voir ce que vous n'avez pas mis sur la photo. L'espace off, comme on dit.
Oui. Alors, on ne voit. On ne voit pas de bâtiment, ou alors très loin dans le fond à la Giudecca.
Est-ce qu'on devine que c'est Venise? Oui, à cause de la gondole.
Oui, et même le je pense qu'on y voit un petit peu l'essence de la. Ce qui, pour moi, correspond à l'essence de cette ville. C'est-à-dire des gens qui vivent près de l'eau. Et pour moi, l'eau, pour moi, c'est vraiment l'oxygène de Venise. Et ça m'a touché à l'époque beaucoup plus que tout ce qui est muséal, les palais, les soi-disant beautés ou les références à Ruskin ou à d'autres gens. Ça m'intéressait moins. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai fait cette série-là, c'était d'observer des gens qui vivent là vraiment et de voir comment. Comment dire, de prendre le temps de regarder.
Oui, et cette photo, elle a été publiée? Vous l'avez mise dans
elle
un livre ou dans une exposition?
Alors, j'ai eu des prix pour cette photo, elle a été montrée. Elle est visible sur mon Instagram. Non, c'est une photo qui a... C'est une photo assez unique parce que c'était encore à l'époque de l'argentique. Donc...
En noir et blanc.
En noir et blanc. Et j'en ai fait qu'une. Il fallait qu'elle... Ouais. J'en ai fait qu'une et je ne savais pas ce que je photographiais. Donc j'ai découvert rentrant et en développant. Et là, c'était une bonne surprise.
Alors, justement, il y a quelque chose d'absolument formidable. Maintenant, quand on observe les photographes, ils passent plus le temps à regarder l'écran de leur appareil photo que la scène qui se passe devant eux. Alors que là, vous avez prononcé ce mot magnifique de surprise. Mmh. Vous faisiez des photos. Et puis, si vous étiez un amateur, vous alliez chercher la pochette au magasin de photos. Ou vous-même, après avoir développé le négatif sans vous planter, au-dessus de votre agrandisseur, vous découvriez avec surprise les photos. Et donc, ça pouvait être 15 jours, un mois plus tard. Enfin, c'était, il y avait toujours un délai. Alors que là, maintenant, la bonne photo, c'est immédiat.
Hein? Alors, donc, la bonne photo immédiatement, j'y crois pas tellement.
Oui, moi non plus.
la photo utile immédiatement, ça peut. Ça, il faut la faire parce que
vous faites une série de photos de mariés, au moins une
mais, dizaine. Je fais pas de photos de mariés, mais disons que je vois. De toute façon, regarder de suite les photos, c'est trop de choses à la fois. C'est faire des photos, regarder les photos, c'est pas la même chose.
Et d'effacer tout de suite celle que...
Oui,
que,
grave erreur.
Parce que si vous travaillez avec des rafales, donc vous allez faire 30 photos en moins d'une minute.
Oui, ou même d'une seconde, meilleur même.
Oui, avec des appareils photo performants. Ouais. Donc effectivement, vous avez la photo où il a les yeux ouverts, le monsieur qui cligne des yeux tout le temps, et autrement, déclenchez vous-même, vous avez 5 photos où il a les yeux fermés. Alors ça, c'est...
Ça arrive.
Ça arrive. Oui. Mais alors après, vous effacez les autres ?
Alors après, disons que les photos... Alors, pour les photos de commande, je garde tout un certain temps, jusqu'à ce que le client soit content et livré, etc. Et après, je fais une petite purge. Je garde les choses qui me plaisent, les choses que j'ai vendues, et après, je jette les trois quarts.
Il vous faut des disques durs, Thomas Linder, plein la maison, quoi.
Non, mais j'en ai plein la maison. Mais j'ai... Par exemple, l'année dernière, je me suis rendu compte que j'ai fait à peu près en commande 90 000 photos. J'en ai livré...
Il faut une vie entière pour toutes les voir.
Non, ça va très vite, en fait. Ça va. J'en ai livré... 4000, 5000. En plus de ce que j'ai livré, je pense qu'il y en a peut-être une bonne centaine qui peuvent me plaire à moi. Le reste, je vais les enlever, quoi.
Oui, mais peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, quelqu'un regardera et dira « Ah, celle-là, elle est terrible, est-ce qu'on voit rien ?»
Non.
Moi, je rêve de retrouver, vous savez, les débuts et les fins de pellicules... des films 35, 35 mm, 24-36, où la photo était un peu voilée parce que c'était le début et tout. Alors parfois, la machine la tirait quand même, mais on la gardait pas. Enfin, on la laissait de côté.
Je trouve ça très beau, en fait. Oui. Mais après, ça, c'est pour le numérique. Le numérique, moi, en travaux personnels, je suis quand même à 80% resté sur de l'argentique.
Oui.
Donc, il y a un rapport... il y a un rapport différent, c'est notre façon de regarder, c'est notre façon d'apprécier à la fois l'image et le temps qui passe.
Oui, c'est ça. Alors, une commande, quelqu'un qui veut vous faire une photo...
Une commande, il y a des délais, donc il faut les respecter.
Mais alors vous ne faites pas les photos de mariage, mais alors les photos de première communion...
Je fais
argentique, non ?
Je fais
Est-ce qu'il y a encore des clients qui vous disent, moi, je fasse une photo en argentique ?
Oui.
Et vous gardez les négatifs à ce moment-là.
Ah oui, bien sûr. Oui. Mais c'est le support de travail, d'ailleurs. En fait, le négatif, c'est une partition. Donc, ça s'interprète. Il y a même des négatifs. Là, je suis en train de revoir les photos que j'avais faites il y a longtemps à Venise. Et je me dis, mais en fait, à l'époque, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Mais entre-temps, j'ai changé d'avis. Donc, c'est différent.
Oui, mais alors vous pouvez faire un tirage plus ou moins contrasté sous l'agrandisseur.
Oui,
vous
oui,
mettez
oui.
vos mains sous oui. le feu de lumière, vous faites des petits trucs. Maintenant, vous scannez votre négatif, vous allez sur Photoshop et puis vous allez. C'est beaucoup plus facile.
Alors, c'est plus facile.
Est-ce que c'est triché, ça?
Bon, non, c'est pas triché, non, pas du tout.
Non.
Aucune photo, dans l'histoire de la photo, on peut remonter aussi loin qu'on veut. Aucune photo n'est, comment dire, sortie telle quelle de l'appareil et acceptée telle quelle, quoi. À part peut-être Niépce, la toute première photo, où il avait 12 heures d'exposition, et il pouvait pas interpréter l'image. Mais je veux dire, quand on voit des photos même des gens sont encore vivants, que j'ai connus, quand ils ont appris le métier, ben, ils ont appris, par exemple, à gratter avec un scalpel le négatif pour faire des photos d'identité. Ce qu'on, évidence, maintenant, on ne fait plus. Donc, la photo ne dit pas la vérité. Il faut quand même essayer d'accepter ça. C'est un point de vue, c'est un regard, ça peut être
la photo n'est pas un témoin.
Alors, elle peut
parce
témoigner.
Le témoin dit la vérité, il va être exécuté.
La photo peut témoigner, mais une photo seule, c'est plus compliqué.
C'est pour ça qu'il y a des journaux qui travaillent énormément les photos et qui ne sont jamais illustratrices d'un article. Elles ont une autonomie, elles racontent quelque chose tout seul. Bon, je pense au journal Libération, par exemple.
Oui, mais par exemple, Libération, c'est intéressant parce que j'ai fait je connais quelques personnes là-bas où on m'a expliqué que, oui, effectivement, la photo raconte l'histoire en une autre histoire que juste d'illustrer un texte.
Voilà.
Par exemple, pour une manif, les mecs, ils vont directement en contre-jour. Pas parce que c'est mieux, mais parce que l'image sera plus belle. Il sera plus... de toute façon, une manif, tout le monde sait comment ça se passe, plus ou moins, parce qu'il y a tellement de photographes. Mais eux, ils cherchent une image percutante. Et là, il faut créer une... Faut chercher une dramaturgie, faut chercher une théâtralité, et on dira ce qu'on voudra, mais les photos en contre-jour sont plus théâtrales qu'une photo avec le soleil dans le dos, souvent. Donc, on cherche l'image.
Oui. Alors, Thomas Linder, je vais vous...
Non, Benoît Linder.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Thomas.
Ah, Thomas. Oui, non, c'est parce que je pensais à Thomas, notre ami qui est derrière la vitre. Voilà. Benoît Linder, il y a une phrase que je déteste... C'est « Fais-moi une belle photo ». Parce que moi, j'ai toujours un petit appareil photo d'amateur dans ma poche. « Fais-moi une belle photo ». C'est quoi une belle photo ?
Je ne sais pas. Parce que
c'est pas très bien.
C'est-à-dire, j'ai quelques idées quand même. Mais une belle photo, c'est bon pour qui déjà ? C'est bon pour quel usage ?
C'est le regard, peut-être.
C'est pas le regard.
Du spectateur. Qui va trouver que c'est une belle photo parce que c'est la photo de son gamin à 3 ans quand il a pleuré
en tombant
du vélo.
La photo, de toute façon, la photo est une Madeleine de Proust, qu'on le veuille ou pas. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle est quelque part ratée et ça n'a rien à voir avec la technique. On peut avoir une photo complètement floue de la mémé, de ci ou de ça, de quelque chose de très intime, de quelque chose qui me touche vraiment, alors que techniquement, c'est totalement raté. Mais c'est parfois tout ce qui reste.
Oui.
Tout ce qui reste d'une vie, c'est tout ce qui reste d'un moment.
Benoît Linder, c'est comment quand la photo est bonne C'est la chanson de Barbara.
Ah, je ne connais pas celle-là.
Ah non.
Voilà.
Ben, il dit que,
non, je connais Kodachrome de Simon Garfunkel. Mais
voilà. Bon, alors la question, elle tombe à l'eau. Mais effectivement, une bonne photo, alors pas une belle photo, mais une bonne photo, celle qui... Vous avez 50 photos, il faut en sélectionner une pour la mettre dans le journal. Comment vous faites?
Je fais en sorte... Il y a plusieurs façons de faire. Soit on a une photo qu'on veut absolument... On veut absolument que ce soit celle qui paraisse. Donc, il y a deux solutions. Soit on livre des photos qui sont vraiment moins bien.
Pour piéger les...
Pour piéger
le rédacteur
qui décide.
Oui.
Et donc... Et une qui vraiment sort du lot. Donc, s'il est un peu malin...
Mais qu'est-ce qui fait qu'elle sort du lot ?
Si je le savais...
Parce que des expériences qui ont été faites, notamment à Libé ou moi avant, de mettre 20 photos, de demander à 10 personnes différentes d'en choisir une, elles choisissent presque toujours la même.
Ouais.
Sauf si c'est un mauvais journaliste qui qui écrit mal, qui fait des mauvais papiers et qui va prendre une qui raconte bêtement toute l'histoire alors qu'il y a...
Ça dépend à qui on s'adresse, parce que souvent, là vraiment à l'expérience qui parle, si je livre une série exhaustive, on va me prendre celle qui dérange le moins. C'est-à-dire la plus conventionnelle, consensuelle, ouais. Qui fait un écho correct au texte, parce que là on parle de journalisme, et on n'osera pas vraiment, il y a une vraie politique d'image derrière, on n'osera pas les photos qui, je vais pas dire dérangent, mais qui surprennent.
Oui.
C'est très difficile. De nos jours, il y a tellement d'images qui circulent qu'on n'ose plus. On a peur de l'image qui choque.
C'est vrai que quand on prend son iPhone et on fait défiler les photos, on arrive à voir 3 photos en une seconde.
Oui. Hein,
donc, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on retient ou où se trouve l'émotion
Ce que je cherche une photo, idéalement, c'est de voir une photo... C'est d'être choqué, en fait. Moi, j'ai fait beaucoup d'images parce que c'est mon métier. J'aime l'image de manière générale, que ce soit des tableaux, des dessins. J'aime l'image les yeux fermés, que ce soit la musique, la littérature ou les choses comme ça.
Montrer des photos à la radio, ce qu'on est en train de faire.
Et ce qui m'intéresse, c'est la surprise. C'est de me dire, tiens, j'ai photographié cette situation-là, cette dame, ce monsieur, et là, je viens de découvrir quelque chose que je ne soupçonnais pas lorsque j'ai fait la photo.
Oui. Donc ça, c'est...
Là, c'est pas mal. Là, ça devient intéressant.
Mais est-ce qu'on a des retours, parfois, des spectateurs? Bon, dans une exposition, vous exposez les photos, les gens passent devant.
Alors, les retours, à un moment donné, la raison pour laquelle on expose, pour moi, pourquoi j'expose moi, c'est la seule raison, c'est d'avoir les retours. Mmh. Moi, montrer les photos, ça peut me servir pour moi...
C'est pas une thérapie de faire des photos comme ceux qui écrivent un roman. La semaine dernière, nous avions.
Ça peut être une thérapie parce qu'il y a des photos qu'on fait qu'on ne montre pas. Mmh. Mais il y a des photos qu'on fait, on ne les montre pas parce que l'acte photographique, la performance photographique est plus importante que le résultat. Et
vous les gardez quand même, vous ne les montrez pas. Donc un jour.
Alors, je peux les montrer, mais dans un cadre précis.
Un jour,
précis.
Vous rentrerez dans une bibliothèque d'archives dans 150 ans, on va la sortir, on va dire, tiens, ça, c'est du Benoît Linder.
Oui, mais c'est des photos... Parfois, on fait des photos parce qu'on ne sait pas comment réagir autrement, en fait. Quoi. Mm-hmm. On fait des photos parce que si j'étais dessinateur... poète ou je sais pas quoi, ben je dessinerai ou j'écrirai quelque chose.
Voilà. Vous allez à un spectacle, vous vous ennuyez, vous faites des photos, vous avez le droit de photographier dans la salle.
En fait, j'aime pas trop aller au spectacle. J'aime beaucoup le spectacle, mais j'aime bien les répétitions.
Vous faites aussi des photos de théâtre, justement.
Je fais des photos de théâtre et de cinéma.
Là. Voilà. Oui, mais ça, c'est des commandes.
C'est des commandes, mais c'est une commande que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup.
Mais alors là, la commande, elle a quand même un but précis, c'est de vendre le spectacle, c'est de montrer une photo qui fasse venir des spectateurs.
Oui, mais c'est, pour moi, voir un spectacle ou de voir un tournage, c'est un voyage. C'est un voyage immobile, c'est un voyage sur scène, sur un plateau ou sur des endroits qui, en fait, n'existent pas comme ça, mais qui sont créés toutes pièces. Et pour moi, c'est un vrai voyage et c'est un vrai reportage dans une histoire. Donc, photographier du théâtre russe, je prends ça très au premier degré. Quoi.
Même si vous ne parlez pas russe.
Aucune importance. Quoi.
Voilà, alors vous avez la cerisée de Tchekhov. Ouais. Là, qu'est-ce que vous allez photographier? Est-ce que le metteur en scène va vous dire, alors moi je veux une photo, on voit les 3 protagonistes et tout, puis elle, c'est la vedette, elle veut être en premier plan parce que ça va faire venir.
Ça, c'est plutôt les mecs du marketing qui vont me dire ça. Quoi.
Ah, oui.
Le metteur en scène, en général, souvent, je connaissais les gens à qui je travaillais. Et les gens savaient pourquoi je venais.
Donc il y a une relation de confiance.
Ah oui, beaucoup.
La bonne photo, donc, c'est quand même la confiance aussi. C'est la surprise, et la confiance.
La bonne photo, c'est une forme d'empathie, c'est une forme de... Comment dire ça? C'est une relation humaine, en fait.
Oui.
Ça n'a rien de technique, hein. Ça peut être... J'ai fait des photos floues et mal cadrées de spectacles qui techniquement n'étaient pas étaient ce qu'elles étaient, mais qui correspondaient exactement à ce que le metteur en scène voulait montrer.
Qui racontait, voilà.
Qui racontait ça, quoi.
Oui, c'est... Mais flou et mal cadré, c'est comme la vie.
Mais oui,
notre vie, elle est, la mienne, elle est vraiment floue et mal cadrée.
Absolument,
donc,
ouais.
Si vous me faites une photo floue et mal cadrée, merci beaucoup, je serais très content.
Mais c'est même, il y a eu un cas comme ça d'un photographe qui s'appelle Richard Avedon, qui a fait un travail sur ça s'appelait Les gens de l'Ouest, donc les années 80. Et donc, pendant quelques années, il est allé donc à l'Ouest des États-Unis photographier des gens, on va dire des losers, des gens...
Mais
entre deux boulots.
C'est une série qui datait aussi des années de la Grande Dépression où il y a eu des photographes américains.
Ouais,
qui
alors
ont
c'est encore autre chose.
Parce que ça, c'était du témoignage aussi. Hein,
ça, c'était. Alors, il y a eu Jessica Lange, Walker Evans, des gens comme ça. Mais ça, c'était. Alors, Walker Evans, pour la petite parenthèse, il était en commande, mais il faisait quand même des photos, en fait, que pour lui.
Ah oui.
Ouais, c'était. Il le savait, le commanditaire. Mais les photos étaient tellement bonnes.
Oui,
qu'en fait, c'était pas grave, quoi. Non, parce qu'il faisait... Walker Evans, lui, clairement, il découpait le négatif, etc., quoi.
Alors, vous aussi, vous avez fait des photos juste pour vous, au cinéma L'Odyssée, hein, donc, qui n'existe plus à Strasbourg, qui a changé et tout, avec Bonjour à Farouk, hein, et vous avez rencontré Godard.
Ouais, ouais.
Alors, racontez-moi un peu, ça.
Godard, il m'est arrivé un truc bête. C'est qu'on... j'avais demandé si je pouvais le prendre en photo. Je suis poli, on était dans les bureaux, tout le monde il s'ennuyait un petit peu, il attendait, puis il dit oui, allez-y. Et donc j'ai pris mon appareil, j'ai fait des photos et je me suis rendu compte que le film était décroché. Donc j'ai fait 26 photos de lui où il n'y a rien.
En argentique.
En argentique,
ouais. Tu es une belle.
C'est un peu con, hein, mais disons,
bonjour Freud.
C'est sympa à raconter dans la radio, mais oui.
Donc la seule photo que vous ayez de Godard.
Non, j'en ai d'autres, mais.
C'est celle qui est dans la tête, quoi.
Ouais, j'ai cette histoire-là, ouais. Mais bon, après ça, c'était. Après, j'en ai fait d'autres dans le cadre de cette visite, quoi.
Il faut toujours avoir deux appareils pour. Il y en a un qui tombe en panne. C'est un truc de photographe professionnel, ça, non?
Oui, ouais.
De boîtier, oui.
Oui, en numérique, j'ai toujours de boîtier, ouais.
Et alors, une autre expérience que vous avez faite, c'est la route du Rhin à Strasbourg.
Ouais.
Hein, alors, ça ressemble un peu au Latourex. Hein. Vous avez fait toute la route du Rhin.
Un été, je crois, l'été 2001 ou 2002, je ne sais plus.
Et vous avez photographié tout, les papiers gras par terre.
Alors, je cherchais. Alors, j'avais une idée très précise, je cherchais la route du Rhin vide. Ce qui est un challenge, hein, parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours des voitures, etc.
C'est 5 heures du matin si on est au mois de juin. Quoi.
Voilà, mais justement, ce n'était pas 5 heures du matin, c'était au mois de juillet. Enfin non, c'était tout l'été. Ouais, donc, si, juin à août, quoi. Et donc, j'ai remonté, j'ai redescendu un nombre significatif de fois, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images sur un endroit vide. Vite, voilà. Mais il n'y a personne, il n'y a rien.
Il n'y avait rien.
Et donc, tout prenait tout devenait différent, parce que, du coup, on était dans un paysage urbain qui...
Et là, vous étiez en numérique ou en...
Non, en argentique, quoi.
En argentique.
Non, en argentique, ouais. Avec le même appareil avec lequel j'ai raté les photos de Godard, quoi.
Alors, justement, en argentique, vous faites des photos de vide, mais en argentique, on freine beaucoup, parce que ça coûte quand même... Un pognon, maintenant, on dirait un pognon de dingue. Mais une pellicule 36 vues, aujourd'hui, je ne sais pas que ça doit revenir à 10 euros.
Bonne dizaine d'euros,
ouais. Oui, bonne dizaine. Donc, si vous faites 500 photos dans la journée, ça fait un sacré budget. Alors qu'en numérique, il n'y a aucun problème.
Le numérique, quoi qu'on en dise, ça coûte cher. Hein. Croyez-moi.
Vous sélectionnez quand même au moment de faire de la prise
non,
de
pas,
vue.
Non, c'est pas... Non. Là, on est quand même dans un mode... j'étais à cette époque-là dans un mode beaucoup plus contemplatif. Donc déjà, il fallait que j'attende que la route du Rhin soit vide.
Oui.
Entre deux voitures, quoi. Et ça n'arrive pas si souvent. Donc j'ai passé des journées quand même à attendre avant d'oser faire une photo. Et alors, il faut que la route soit vide, mais aussi il faut que la lumière soit bien. C'est intéressant. Ça, c'est un truc aussi. Oui. La photo, quoi qu'on en dise, ça reste une écriture avec la lumière. Et numérique ou argentique, peu importe. Donc, il s'agit de... il s'agit de se... D'attendre, d'avoir la patience et quelque chose qui n'est pas forcément compatible avec le numérique.
Oui. Donc,
il s'agissait d'attendre.
Des photos de rien.
Oui.
Voilà. Ben voilà, ça c'est une très belle définition pour une émission de radio. Une
photo Mais c'est les meilleures photos d'ailleurs.
C'était l'épisode numéro 155 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg. Alors aujourd'hui, Benoît Linder, photographe de la vie quotidienne. Dites-moi, un bon photographe, hein. Alors c'est celui qui est toujours surpris, ça on l'a compris, par ce qu'il fait, mais est-ce qu'il n'y a pas de la routine au bout d'un moment ?
Comme partout.
Oui.
Comme partout.
Il n'y a pas des fois où c'est vraiment... Non, c'est pas aller à l'usine quand même que d'aller faire des photos.
Ça dépend ce qu'on photographie.
Oui.
Ça dépend ce qu'on... Non, vraiment. Après, c'est des... Après, ce qui fait un bon photographe aussi, c'est l'enthousiasme.
Oui. Ben vous êtes enthousiaste. Ça, on l'a entendu à la radio. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, on va monter sur nos grands chevaux et on va soigner des éléphants avec Cora Albrecht, à qui on dit bravo et on rigole parce qu'elle tient aussi un restaurant. Ça rime avec Alsace et éléphant. À la technique, Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.